l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci de nous rejoindre, bienvenue, l'antenne vous appartient comme tous les jours à cette heure-ci, RFI vous donne la parole et dans 30 minutes nous lancerons le débat sur le bras de fer entre l'Union africaine et la Cour pénale internationale car il y a quelques jours, lors du dernier sommet de l'Union africaine, eh bien les chefs d'État ont une fois de plus critiqué les pratiques de la CPI, accusée de ne poursuivre que des Africains. Idriss Déby, le nouveau président en exercice, a dénoncé un acharnement. Jacob Zuma, le président sud-africain, a quant à lui clairement évoqué le retrait de son pays, de la CPI. Alors que vous inspire cette nouvelle fronde? L'Afrique doit-elle quitter la Cour pénale internationale? En tout cas, les chefs d'État ont adopté une résolution en faveur du retrait des pays africains. Vu le nombre de réactions que nous recevons au standard, le débat s'annonce passionnant. Plus de 600 commentaires postés sur la page Facebook de l'émission et beaucoup de réactions évidemment au standard. Un seul numéro si vous souhaitez prendre la parole. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous êtes en France et les réseaux sociaux évidemment. Mais d'abord, vos questions à la rédaction, c'est votre rendez-vous quotidien, rendez-vous même privilégié avec les journalistes d'RFI. Vous souhaitez mieux comprendre l'actualité, eh bien vous nous appelez et la rédaction vous répond tous les matins. Première question, Moussa est au téléphone, bonjour. Ah non, pas Moussa, excusez-moi, autant pour moi, Arnold. Bonjour Arnold.
Bonjour. Bonjour Juan, bonjour RFI.
Vous nous appelez de Kinshasa et vous avez des questions concernant le Rafale, le fleuron des avions de combat français.
Exactement, François Hollande était en visite en Inde la semaine dernière pour la vente des Rafales et signer des contrats économiques. Et nous savons que depuis 2012, l'Inde négociait pour une commande des Rafales. Qu'est-ce qui bloque dans ces négociations?
Ah, bonne question, effectivement. Bonjour Guillaume Nodin.
Bonjour Juan, bonjour Arnold, bonjour à toutes et à
tous. Merci d'être avec nous, vous étiez l'envoyé spécial d'RFI. Vous avez donc suivi au pas à pas le président français François Hollande dans cette visite à New Delhi. François Hollande espérait évidemment signer un contrat. Malgré les nombreuses tractations, les années de négociations, ce contrat n'est toujours pas signé. Pourquoi?
Eh bien, en fait, il y a deux contrats. Il faut revenir un petit peu en arrière. En 2009, l'Inde lance un appel d'offres pour un avion de combat multirôle. Cet appel d'offres, plusieurs compagnies fabricants d'avions de combat y répondent, dont Dassault Aviation, qui présente son Rafale. Et finalement, en 2012, comme l'a dit très justement Arnold, l'Inde entre en négociation exclusive avec Dassault Aviation pour l'achat de ce Rafale. Donc ça veut dire que l'Inde avait choisi le Rafale, il restait à régler effectivement un certain nombre, non pas de détails, mais de quels sont les armements qui seront montés sur les avions, où seront-ils fabriqués, parce que ça c'était dans ce contrat un élément important. Il devait y avoir 18 avions fabriqué en France sur 126 et le reste donc devait être fabriqué en Inde.
Alors enfin, là on parle plus de 126 avions, non, on parle de 36 avions.
Oui, je remonte à la genèse de l'histoire. Et donc on a discuté pendant des années. Et puis en avril 2014, Narendra Modi, le premier ministre indien, est venu à Paris. Il a dit ce contrat, cet appel d'offres, c'est terminé, on arrête avec ça. Je vais acheter 36 avions Rafale directement, ce qu'on appelle sur étagère, c'est-à-dire que je prendrai les avions tels qu'ils sont fabriqués en France. Ça, c'était un engagement formel et verbal du Premier ministre indien lors de sa venue à Paris. Et puis, donc, ça fait un peu plus de 6 mois maintenant, un peu plus de 8 mois. Et donc, quand François Hollande est allé la semaine dernière en Inde, eh bien, il espérait effectivement arracher ce contrat, arracher cette vente des Rafales. Et il a obtenu une signature, en effet, puisque les deux pays ont signé un accord intergouvernemental qui fixe ce qui sera vendu à l'Inde, ce qui sera monté comme armement sur ces Rafales, quels sont les montants des investissements que Dassault va faire sur place. Alors, les avions seront fabriqués en France, les 36 avions seront fabriqués en France, mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir ce qu'on appelle dans le jargon des offsets, c'est-à-dire des à côté au contrat qui font que on pourra faire la formation des pilotes en Inde, on pourra éventuellement installer des usines qui vont compléter l'aménagement des Falcon, des avions d'affaires de Dassault, etc. Donc tout ça, le contrat est parfaitement cadré, 36 avions.
Mais le contrat n'est toujours pas signé.
Et le contrat n'est pas signé. Il y a un accord intergouvernemental, mais comme l'a dit François Hollande, les industriels, donc Dassault Aviation, donc son PDG Éric Trappier, doit négocier les détails du contrat. Alors, comme détail, vous m'excuserez, Juan, il reste le prix.
Ah oui.
C'est pas le moindre des détails. Très légitimement, les Indiens veulent le meilleur avion possible. Ils veulent aussi le payer le moins cher possible, ce qui est également légitime. Tandis que Dassault ne veut pas brader son fleuron. Il veut. Alors, il y a déjà eu quelques ventes de ces avions, mais évidemment, Dassault voudrait obtenir le plus possible, ce qui est bien légitime également. Donc voilà, il y a eu à l'issue de cette signature de contrat intergouvernemental entre la France et l'Inde, d'accord intergouvernemental, il y a eu ce communiqué de Dassault qui expliquait que Dassault se donnait 4 semaines pour conclure. Les négociations ont commencé au début de cette semaine. Donc il reste un peu moins de 3 semaines maintenant pour conclure cette vente avec un prix qu'on attend toujours.
Et on attend évidemment. Arnold, vous avez une autre question ?
Exactement, j'ai bien compris. Et l'Égypte, les Qatar ont commandé aussi des rafales à la France. L'Inde s'intéresse. La question est celle de savoir qu'est-ce qui pousse tous ces pays à acheter des avions français.
Ah, et l'Égypte qui a commandé 24 Rafales, tout comme le Qatar, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, Dassault parvient à vendre cet avion alors que durant 20 ans, la France n'avait pas réussi à vendre le moindre Rafale à l'étranger ?
Je vous fais la réponse du président de la République.
Allez-y.
Parce que c'est le meilleur avion du monde. Alors évidemment, François Hollande a intérêt à faire cette réponse et à vendre cet avion un peu partout où il va, même s'il précise qu'il n'est pas le VRP de la maison Dassault. Mais effectivement, cet avion, le Rafale, compte tenu de la concurrence sur le marché aujourd'hui, c'est un avion qui est multirôle, qui peut faire office de bombardier, qui le prouve tous les jours en Syrie, en Irak, qui l'a prouvé en Libye, qui peut faire office d'avion d'observation, qui le prouve tous les jours en Syrie et en Irak. C'est aussi un chasseur-intercepteur. C'est un avion sur lequel, et ce n'est pas le moindre des atouts pour un pays comme l'Inde, on peut monter de la dissuasion nucléaire. Donc ça, c'est à discuter. Donc voilà, il y a tout un tas de faits qui font que cet avion est très intéressant et c'est un avion qui est disponible aujourd'hui, qui existe. Alors que si vous prenez par exemple le F-35 américain, c'est un programme qui va durer plusieurs années, mais les Américains ne parviennent pas vraiment à le faire voler. Ils l'ont encore jamais vu en démonstration.
Donc c'est un avion sur papier.
C'est un avion sur papier. Et puis, c'est très cher et on ne sait pas quand on va pouvoir l'armer, quand il va fonctionner. Le Rafale de Dassault, lui, il fonctionne et il est disponible.
Et il a déjà prouvé sa performance, notamment lors de l'intervention de la France au Mali. Merci beaucoup Guillaume Nodin. Bonne journée à vous. Merci Arnold d'écouter RFI à Kinshasa, 9h18 ici à Paris. Ce sont vos questions à la rédaction. Moussa, bonjour.
Juan, bonjour. Bonjour Serge Daniel et Amélie Tulé.
Ah, Serge Daniel, évidemment, notre correspondant à Bamako, qui doit très certainement nous écouter. Vous avez des questions, vous, concernant la visite d'Hassan Rouhani à Paris. C'était la semaine dernière.
Oui, Juan. Alors, le président iranien Hassan Rouhani a effectué la semaine dernière une visite de 48 heures en France. Alors, sur ce sujet, Juan, je voudrais savoir, est-ce que ce rapprochement entre la France et l'Iran ne va-t-il pas impacter les relations entre la France et l'Arabie Saoudite ?
Alors, question pertinente. Bonjour Daniel Valo.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste au service international d'RFI. On voit bien que la France est décidée à retrouver sa place de partenaire important de l'Iran, place qu'elle occupait évidemment avant les sanctions. Comment ce rapprochement est-il perçu par l'Arabie Saoudite, dont les relations sont exécrables avec l'Iran depuis maintenant un mois ?
Alors écoutez, bien, l'Arabie Saoudite, de manière générale, s'inquiète énormément de tous les progrès diplomatiques de l'Iran. Donc évidemment, quand Hassan Rouhani se rend à Paris, qu'il est reçu en grande pompe par François Hollande, l'Arabie Saoudite se sent lâchée, comme elle s'est sentie lâchée par les États-Unis quand les États-Unis ont accepté de conclure l'accord sur le nucléaire iranien. L'Arabie Saoudite s'inquiète, elle ne se fâche pas, elle se préoccupe. Mais est-ce qu'elle va aller jusqu'à se brouiller avec la France parce que la France se rapproche de Téhéran ? C'est fort peu probable. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'autres pays qui jouent la carte de l'ouverture avec l'Iran. Aujourd'hui, suite à cet accord sur le nucléaire, l'Allemagne, l'Italie, en Europe. Et puis, la France conserve un atout vis-à-vis de l'Arabie Saoudite dans son rapport avec l'Iran, c'est qu'elle a été, elle a compté parmi les négociateurs les plus durs au sein des pays occidentaux, plus durs que les États-Unis, par exemple, lorsqu'il s'agit de négocier cet accord sur le nucléaire iranien. Sur la question syrienne, sur la question de Bachar al-Assad, la France figure également parmi les pays les plus intransigeants,
En tout cas, s'agissant du sort et de l'avenir de Bachar el-Assad, on voit bien qu'il y a clairement des divergences entre Téhéran et Paris.
Voilà, et donc pour l'Arabie saoudite, c'est très important. Alors, dans l'autre sens, est-ce que la France va remettre en cause son alliance stratégique de plus en plus importante avec Riyad pour se rapprocher de Téhéran? Là encore, c'est très peu probable parce que, eh ben, on l'a vu depuis le début du quinquennat de François Hollande, cet axe stratégique avec Riyad est très fort. Il compte de plus en plus fort. Pour différentes raisons, il y a des intérêts économiques évidents. On va pas revenir là-dessus, mais il y a aussi des convergences diplomatiques. On a parlé de la Syrie, par exemple. Il y a même des convergences. C'est ce qu'on dit au sein du gouvernement français sur la lutte contre le terrorisme. On estime que l'Arabie saoudite est sincère quand elle dit qu'elle lutte sur contre le terrorisme. On voit qu'il y a aussi cette discrétion française qui est reprochée par les organisations de défense des droits de l'homme sur la question des droits de l'homme. Donc on voit bien que la France n'a pas du tout l'intention de se brouiller, bien sûr, mais même pas de détériorer sa relation avec l'Arabie saoudite, même si elle veut jouer à fond la carte iranienne et la carte de l'ouverture avec Rouhani. Elle considère en fait que les deux sont compatibles.
Entre son allié saoudien et son partenaire iranien, la France est donc obligée de faire d'une certaine façon le grand écart. Merci beaucoup, Daniel Valot, d'être venu répondre à Moussa qui nous appelait de Conakry, 9h22 à Paris. N'oubliez pas, dans 20 minutes maintenant, notre débat consacré à cette nouvelle fronde des dirigeants africains contre la Cour pénale internationale, 33 9 693 693 70. On continue à parler des visites. L'agenda du président français était chargé ces derniers jours. Il accueillait hier et avant-hier Raúl Castro, le président cubain. Bonjour Fiston.
Bonjour Juan Gomez, comment vous allez?
Très bien, merci de nous appeler du Togo. Déplacement historique, c'était la première visite d'un président cubain en France depuis l'indépendance de l'île, et vous avez donc des questions.
Ah, effectivement, donc j'ai appris donc sur vos antennes que Raúl Castro, le président cubain, a effectué une visite officielle en France. Pourquoi Raúl Castro effectue-t-il son premier voyage officiel européen en France? La France va-t-elle devenir le partenaire privilégié de Cuba en Europe?
Ah, alors pourquoi la France? Pourquoi avoir choisi la France pour son premier voyage officiel en Europe? Jeannette Abel est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de Cuba, maître de conférence à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. La France a déroulé le tapis rouge à Raúl Castro. Hein. Cérémonie de la flamme à l'Arc de Triomphe, descente des Champs-Élysées avec, s'il vous plaît, la garde républicaine qui était à cheval, rencontre avec les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat, dîner officiel à l'Élysée. Comment expliquer l'intérêt de Raúl Castro pour la France?
Écoutez, l'intérêt de Raúl Castro pour la France est assez facile à comprendre, parce que la question de votre correspondant, ce n'est pas qu'il ait d'abord choisi la France, c'est son premier voyage officiel, c'est la première visite d'État dans un pays d'Europe occidentale. Il n'y en a jamais eu d'autres depuis l'accession de Cuba, l'accession de Fidel Castro au pouvoir en 1959. Donc, il y avait eu des visites de Fidel Castro dans les pays d'Europe de l'Est. Il y avait eu une visite de Fidel Castro en 1995 en France, mais ça n'était pas une visite officielle. C'est donc une invitation officielle de François Hollande. C'est la première fois que cela se produit. Et pour Cuba, c'est évidemment une reconnaissance très importante qui légitime d'une certaine manière la reconnaissance publique de Cuba qui, vous le savez, a été et toujours victime d'un embargo américain et très important, très féroce, on peut même dire, de sanctions économiques et commerciales très, très difficiles. Donc c'est une opportunité qui lui a été offerte, ça n'est pas un premier choix.
Ouais. Et on rappelle que François Hollande a une fois de plus plaidé pour la levée de l'embargo américain, et d'ailleurs depuis le début des années 90, la France a voté chaque année à l'Assemblée générale des Nations Unies en faveur du projet de résolution condamnant l'embargo américain. La France veut-elle devenir le partenaire privilégié de Cuba en Europe? C'était la question que nous posait l'auditeur.
Oui, en tous les cas, la France souhaiterait l'être, mais elle a de sérieux concurrents, l'Espagne en Europe, l'Allemagne, même la Grande-Bretagne, mais en tous les cas, la France a effectivement une situation, en tous les cas privilégiée, en tout cas favorable par rapport à Cuba, notamment aujourd'hui, parce qu'elle a contribué à annuler une grande partie de la dette de Cuba envers l'État français au sein du Club de Paris qui s'est réuni tout récemment pendant la conférence, pendant la COP21. Cuba a joué un rôle très important à cette occasion. Et le gouvernement français souhaite effectivement développer ces échanges pour plusieurs raisons. D'une part parce que Cuba, c'est quand même une porte d'entrée en Amérique latine.
Bien sûr.
Dans ce qu'on appelait traditionnellement l'arrière-cour des États-Unis, et d'autre part parce que il y a les Antilles françaises, la Guyane dans le bassin des Caraïbes où Cuba se trouve, ce qui pourrait favoriser des liens géopolitiques importants pour ces îles qui sont quand même toujours dans une situation difficile comme toutes les autres petites îles des Caraïbes. Donc il y a des enjeux à la fois économiques, financiers et
géostratégiques. Évidemment. Donc on voit bien que Raoul Castro et François Hollande ont d'une certaine façon les mêmes enjeux, les mêmes attentes politiques, géostratégiques, économiques, l'un sur le continent européen et l'autre sur le continent latino-américain. Merci d'avoir été avec nous, Jeannette Abel. Bonne journée à Fiston qui nous appelait du Togo. On va s'intéresser maintenant à cette découverte d'un gisement gazier au Sénégal, le plus important gisement gazier en Afrique de l'Ouest. Djibril, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Merci de nous écouter en Italie. Vous êtes à Macerata. Et après avoir entendu cette information sur RFI, vous avez plusieurs questions.
Oui. En fait, j'ai vu que la société Cosmos a découvert du gaz au Sénégal et que peut-être c'est détient les 10% alors que Cosmos les 60%. Que signifie ces chiffres-là? Et si le Sénégal pourra-t-il profiter de sa ressource? Et que peuvent être les retombées de cette découverte?
Alors, effectivement, c'est une entreprise américaine qui a découvert ce gisement gazier. C'est elle qui a la majorité, 60% si mes chiffres sont bons, dans le consortium. Et bon, la société des pétroles du Sénégal n'a que 10%. Fabien Hoffner, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des correspondants d'RFI au Sénégal. Un important gisement découvert au Sénégal, actualité évidemment très importante. Le gouvernement sur place a salué cette découverte. Des réserves estimées, tenez-vous bien, à 450 milliards de mètres cubes. Quelles peuvent être leurs retombées pour le pays ?
Bah oui, on se pose beaucoup de questions car tout cela est nouveau pour le Sénégal. Le Sénégal dont les principaux moteurs de l'économie sont traditionnellement la pêche d'un côté et le tourisme. Alors pour le moment, on ne sait pas trop si on doit se réjouir ou s'inquiéter de ces découvertes, semble-t-il effectivement très importantes. D'un côté, la bonne nouvelle, c'est que cela permettra au Sénégal de diversifier ses sources de revenus et de ne plus compter seulement sur la pêche et le tourisme, donc qui sont par ailleurs des secteurs en crise. A priori, cela permettrait également au Sénégal de réduire ses importations d'énergie. La facture pétrolière, comme on dit, tourne autour de 10% du produit intérieur brut du Sénégal. C'est très important. L'exploitation du gaz et du pétrole permettrait donc de renforcer l'indépendance énergétique du pays, de diminuer le prix de vente et voire même d'exporter à l'étranger. Mais d'un autre côté, on a tous entendu parler de la célèbre formule « malédiction des ressources naturelles », une façon de dire que l'or, le diamant, le gaz où le pétrole ne font pas forcément le bonheur d'un pays et sont même parfois à l'origine de leurs pertes. Alors parmi les dommages collatéraux souvent constatés, on peut citer notamment un abandon des autres secteurs industriels, le développement de la corruption. Il faut noter aussi que l'industrie gazière ou pétrolière est certes créatrice de richesses, mais crée en revanche très peu d'emplois comparativement à d'autres industries. En tout cas, si l'on prend l'exemple des trois premiers pays producteurs de pétrole en Afrique, que sont le Nigeria, l'Angola et l'Algérie, ce sont des pays où le pétrole n'a pas vraiment contribué à la réduction des inégalités, voire même les a encouragés. Alors au Sénégal, la principale expérience dans le domaine minier jusqu'à présent, c'est celle de l'or, et elle n'est pas franchement concluante. Plusieurs fois, des ONG et des médias ont montré que l'exploitation de l'or ne bénéficiait pas assez à l'État et aux populations, sans compter évidemment les dommages environnementaux et sociaux.
Alors, Fabien Hoffner, ne raccrochez pas, on va vous retrouver avec Djibril juste après le journal, car il est intéressant de voir quelles sont maintenant les marges de manœuvre d'un État comme le Sénégal vis-à-vis des multinationales. On en parle dans 10 minutes exactement, et ensuite on parlera évidemment de la Cour pénale internationale.
Priorité santé. Claire.